nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Bonjour. À la Bibliothèque nationale de France, un hommage sera rendu le 23 octobre prochain à la célèbre philosophe française Simone Veil, dont cette année 2009 marque le centenaire de la naissance. Pour nous parler de cet événement, Florence de Lucy est l'invitée de Canal Académie. Florence de Lucy, bonjour.
Bonjour.
Florence de Lucy, vous êtes chargée de mission à la Bibliothèque nationale de France. Vous assurez depuis 30 ans l'édition magistrale des œuvres complètes de Simone Veil. Chez Gallimard, une tâche immense, Florence de Lucy.
Écoutez, je ne peux pas dire que je sois chargée de mission. J'ai fait toute ma carrière à la Bibliothèque nationale. Je suis maintenant dégagée de ces fonctions et je suis très très heureuse que la Bibliothèque nationale ait accepté de cette idée que j'avais lancée d'organiser un hommage à cette philosophe sur laquelle j'ai 30 travaillé et sur laquelle nous travaillons tous encore avec cette assiduité que certains connaissent.
Alors, expliquez aux auditeurs de Canal Académie la teneur de cet hommage qui se situera donc le 23 octobre prochain à la BNF, un hommage que vous avez orchestré complètement, Florence de Lucy.
Oui, cet hommage qui a donc aura lieu exactement dans une semaine, je l'ai conçu comme devant être bref. Inutile, à mon sens, d'organiser une journée, deux journées, comme quelquefois certains colloques. J'ai désiré que ce fût bref, très beau, très intense. Il n'y aura que quatre conférenciers et un présentateur en la personne d'Olivier Rey, qui est fort connu dans le monde scientifique. Il y aura Bertrand Saint-Cernin,
qui est académicien.
Laurent Lafogue, mathématicien médaille Fields. Et il y aura aussi Guy Petit-Demange pour le problème de l'antijudaïsme de Simone et les rapports avec Lévinas. Et puis David Tracy qui nous vient de l'Université de Chicago et qui nous parlera du problème du moi veilien, c'est-à-dire de l'étrange personnalité qu'elle représente.
Les horaires ?
Les horaires, donc de 14h à 18h, étant bien entendu que les conférences s'arrêteront à 17h, qu'il y aura un court moment pour des échanges et une réception. Et ensuite, il y aura une lecture théâtralisée de textes de Simone Veil.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire un choix de textes qui sont lus par une comédienne et mis en scène. Et ça sera fait avec beaucoup de soin. Et ça va durer environ une heure. Et ça sera la clôture de cet après-midi consacré à la philosophe.
Comment peut-on y participer, y assister ?
Tout le monde vient et j'invite chaleureusement toute personne intéressée par Simone Veil à venir. L'auditorium est vaste. Nous pouvons donc accueillir quelque chose comme 300 personnes.
Florence de Lucy, autre événement, cette fois situé au mois de novembre. La parution littéraire aux éditions Gallimard du 10e volume sur la Grèce, l'Inde, l'Occitanie, dans cette formidable anthologie des œuvres de Simone Veil.
Oh, c'est plus qu'une anthologie, on appelle ça les œuvres complètes. Alors nous sommes très très heureux qu'en cette année du centenaire, nous puissions publier encore un volume très volumineux, on peut dire la chose, très important, très déterminant et qui a occasionné la réunion d'un grand nombre de spécialistes dans les domaines divers qui sont concernés. Et précisément, j'ai eu la joie à cette occasion d'attirer, si vous voulez, à cette opération, deux grandes spécialistes, Anissa Castelbouchouchi pour le monde de la philosophie et de l'hellénisme et Sylvia Dintino pour le monde de l'indianisme.
Deux brillantes collaboratrices qui se trouvent également devant les micros de Canal Académie. À vos côtés, Florence de Lucy, Anissa Castelbouchouchi, bonjour.
Bonjour.
Et Sylvia Dintino, bienvenue à Canal Académie, toutes les deux. Alors donc, des thèmes bien précis, l'importance de la culture grecque, de la philosophie grecque et l'importance de l'indianisme dans la vie de Simone Veil. Florence de Lucy, en tant qu'ardente défenseur et conservateur de la pensée de Simone Veil, pourquoi déclarez-vous que Simone Veil est une sorte de pic de la Mirandole ? Expliquez-nous.
Cela me paraît très très évident. Elle a visité tous les domaines du savoir avec une ardeur, avec une avidité même, une espèce de presque d'anxiété. Pietro Citati a merveilleusement parlé d'elle à ce sujet, avec cette expression tout à fait remarquable. Toute l'histoire intellectuelle de l'univers s'engouffra dans son esprit, comme des siècles auparavant dans celui de Pascal. Je crois que c'est absolument exact. Et ce n'est pas exagéré, exact et non exagéré.
Mais vous soulignez cette capacité chez Simone Veil de voir plus loin, comme vous l'écrivez, que son savoir accumulé.
Ah, ça, c'est quelque chose à laquelle je tiens beaucoup. Le savoir accumulé, c'est le savoir sorbonnard, c'est le savoir qui est enseigné, c'est le savoir qui est composé par pièces et morceaux. Et Simone Veil avait, à la suite de son maître Alain, elle avait une sorte de dégoût de ce genre d'enseignement. Et dans sa jeunesse intrépide, elle allait jusqu'à dire « Oh, pour ça, nous avons Aristote, c'est la perfection dans le genre. » Mais d'un coup de main dédaigneux, elle écartait Aristote au profit de Platon.
Une voix, vous l'écrivez, reconnaissable entre toutes. Qu'est-ce qui fait ce caractère unique de la pensée de Simone Veil?
À mon avis, c'est parce qu'il y a une tendance chez elle à hausser, monter, gravir des échelons et parvenir à une sorte de surplomb, voyez-vous. Et ça, c'est quelque chose d'absolument rare. Et c'est pourquoi, moi personnellement, mais je pense que mes amis penseront la même chose que moi, elle est, en tant que philosophe, elle est créateur. Qu'en pensez-vous, Anissa?
Il me semble que ce qu'il y a d'intéressant chez Simone Veil, c'est qu'en effet, elle ressemble beaucoup à une figure philosophique platonicienne. C'est-à-dire qu'elle conjugue deux exigences apparemment contradictoires. D'abord, elle connaît bien ce dont elle parle. Elle a un très grand souci de l'exactitude des textes, la précision des références, une rigueur conceptuelle. Et donc, elle n'est pas du tout de ces intellectuels qui, selon une formule que j'aime beaucoup, parlent avec autorité des choses de leur incompétence. Elle est compétente dans son domaine, mais en même temps, elle a toujours une vue synoptique. Elle réfléchit toujours, elle a été formée par Alain, et c'est d'abord Simone Veil, quelqu'un qui est passé par les classes préparatoires et à qui on a enseigné que la philosophie était une réflexion générale. La philosophie n'a pas d'objet spécifique, donc même lorsque Simone Veil est très savante dans un domaine particulier, ce qui l'intéresse toujours, c'est la problématique générale, la problématique véritablement philosophique, de sorte qu'elle a cette espèce de conjugaison fort intéressante qui fait le philosophe, selon le Platon de la République, à savoir que le philosophe a des connaissances spécialisées spécifiques, par exemple dans le domaine des sciences, mais qu'il entretient toujours en lui la vision synoptique du tout, de la parenté des différents enseignements entre eux. Et Simone Veil est quelqu'un de contradictoire, mais aussi de très synthétique. Et c'est ce qui fait, me semble-t-il, l'intérêt véritablement philosophique de sa pensée. Ce n'est pas quelqu'un qui a une doctrine, mais c'est quelqu'un qui pense toujours à nouveau frais, qui reformule les problèmes et qui ne les abandonne jamais.
Anissa Castel-Bouchouchi, je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes helléniste, professeure de philosophie à la Cagne de Fénelon, spécialiste de Platon, vous venez de nous en faire la brillante démonstration, et vous avez donc été l'une des maîtresses d'œuvre du volume numéro 10 sur la Grèce, l'Inde, l'Occitanie, un ouvrage qui permet donc de faire le point sur l'attachement à la Grèce de Simone Veil. Alors justement, pourquoi Simone Veil s'est-elle créé des liens si profonds, vitaux, dites-vous, pourrait-on dire, avec cette pensée philosophique de la Grèce antique?
Pourquoi? Parce que, je pense qu'elle a une idée de la philosophie qui est une idée, en son fond, très platonicienne. Et quand elle relègue Aristote, en réalité, c'est un geste un peu facile. Je crois qu'effectivement, son attitude philosophique n'est pas aristotélicienne, mais comme en même temps elle a de grandes exigences du côté du savoir, en réalité, on peut dire aussi d'elle qu'elle a une culture encyclopédique. Donc, en réalité, elle conjugue assez bien une tendance platonicienne et aristotélicienne. Mais elle a été formée ainsi, et je crois que ce qu'elle trouve dans la Grèce antique, c'est une culture qui forme un tout. Une culture qui n'est pas la culture telle que nous la connaissons au XXe siècle, où il y a de plus en plus d'experts, de plus en plus de domaines spécialisés du savoir, et où il est très difficile, en effet, d'avoir une vue d'ensemble et un questionnement général. Et de ce point de vue-là, le parallèle entre Simone Veil et Pascal est analogue au parallèle que l'on pourrait faire entre Simone Veil et Platon. Ce qu'elle recherche, c'est à avoir un point de vue général, fondé sur un certain nombre de questions, au lieu de s'en remettre à des avis d'experts ou à des savoirs parcellisés.
Florence Delucie et vous-même, Anissa, êtes d'accord, s'agissant de l'être profond, vous insistez sur les contradictions du personnage.
Ah, les contradictions sont multiples et c'est à la fois gênant et très excitant. C'est-à-dire, comme Anissa, nous en avons parlé souvent ensemble, et comme elle pourra vous en parler, à cause justement de cette complexité de l'être de Simone Veil, elle est tirée à hue et à dia par telle ou telle partie. Et je crois que vous savez très bien ce que nous voulons dire par là.
Oui, je suis arrivée en terre vélienne, je suis une intruse. En ce qui me concerne, je me considère comme une astruite, une pièce rapportée, disons. Au départ, je suis helléniste et je ne suis pas acquise à la cause vélienne. Donc, je suis souvent frappée par la géographie ou par la récupération dont Simone Veil fait l'objet, par des bords tout à fait différents, ceux dont sa biographie rend compte. Mais il me semble que chacun prélève la Simone Veil qui l'arrange. Donc, Simone Veil de la Procure, la Simone Veil de la Maison des Métallos. Curieusement, chacun fait son droit d'inventaire. Et personnellement, ce qui m'intéresse chez Simone Veil, c'est que c'est quelqu'un de totalement contradictoire, de très contradictoire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne puisse pas la faire rentrer dans une rubrique. Donc, puisque vous me demandiez tout à l'heure pourquoi la Grèce est si importante pour Simone Veil, il y a quelqu'un dont Simone Veil parle très rarement, si ce n'est jamais, c'est la figure de Socrate. Et pourtant, s'il y a bien un philosophe à qui Simone Veil me fait penser, c'est bien à Socrate. Il est toujours un peu tendancieux, si ce n'est frauduleux, de réduire Simone Veil à certaines images d'Épinal. Simone Veil, ça n'est pas seulement celle qui donnait son salaire aux ouvriers, ça n'est pas seulement celle qui est partie à la guerre d'Espagne, ça n'est pas seulement la grande chrétienne mystique. Elle est tout cela à la fois. Et on ne saura jamais ce que cela aurait donné si elle avait vécu plus longtemps, hélas. Mais ça aurait été, à mon avis, très intéressant de voir si, à 50 ou 60 ans, Simone Veil se serait rangée dans une rubrique. Mais elle ne s'est jamais rangée.
Non, elle ne s'est jamais rangée. Elle est... On ne peut l'embrasser, si je puis dire. D'ailleurs, elle aurait refusé qu'on le fasse sur le plan, tout simplement, du contact. Mais enfin, je parle là d'essayer d'embrasser cette pensée vraiment considérable. Elle n'est nulle part. Voyez-vous, on croit qu'elle est là, elle n'y est plus. Elle est là, non, elle n'est pas. Et il faut toujours la chercher plus loin, plus profond. Alors il y a chez elle cet aspect aussi qui est très admirable, que j'appellerais l'effet oignon qu'on pèle. On peut l'aborder d'une façon très simple et tout le monde y trouve beaucoup de choses belles et bonnes. Et c'est pour ça que finalement, la jeunesse y a recours volontiers. Et puis ensuite, si l'intérêt s'accroche, on trouvera encore. Et si on s'accroche vraiment, eh bien, on n'en finit pas. On a avec elle ce que j'appellerais une conversation infinie, ou un entretien infini, si on veut faire avancer le titre de l'ouvrage de Blanchot, voyez-vous. Elle est indéfinissable et indéfinie. On n'en a jamais fini avec elle. C'est merveilleux.
Insaisissable, indéfinissable, oui. Un grand mystère. Mais elle nous parle à nous tous et à chacun d'entre nous.
Oui, justement. Je crois que c'est son charisme ou sa vocation, je ne sais pas, enfin on peut employer tous les mots que l'on voudra, mais j'aimerais qu'on demande à Sylvia ce que c'est que cette expérience du monde indien.
Alors Sylvia Dintino, vous êtes une jeune scientifique, nos auditeurs ne l'ont pas encore tout à fait saisi, mais d'origine italienne, oui. On va l'entendre à votre charmant accent, vous êtes indianiste au CNRS, et vous avez donc collaboré, de la même façon que Anissa Castelbouchouchi, à ce 10e volume. Mais alors vous, c'est dans le concept indien, dans la culture indienne. Alors, l'attachement de ce deuxième pilier qui constitue un peu le contrepoids, on le verra tout à l'heure, au christianisme peut-être de Simone Veil.
Peut-être. Il y a un effet dans la vie de Simone Veil, des rencontres décisives, des rencontres extraordinaires même. Ce sont des rencontres humaines, des rencontres avec des êtres, des amis, des maîtres, mais ce sont aussi des rencontres avec des livres. Non seulement la Grèce de Platon avait marqué profondément sa formation, mais un livre a été décisif, et je pense que c'est l'Iliade pour sa rencontre avec la Grèce. Et ce livre décisif retrouve un peu un pendant, un parallèle, quelque peu plus tard, disons, sur son chemin, dans la Bhagavad Gita, qui est donc le grand classique de la spiritualité indienne. Et vous voyez, c'est cette tendance, comment dirais-je, à franchir les étapes, cette tendance, en un sens, à l'universel, d'un côté, et cette profondeur dans la recherche, cette exactitude, ce souci pour la connaissance, donc, l'amène à chercher, à se poser les grandes questions, les questions essentielles vis-à-vis d'un texte. Et pour ce qui est donc du côté indien, l'oblige à étudier le sanskrit, à étudier la langue, à rentrer dans cet univers. Et là, la rencontre extraordinaire avec René Dommal, qui lui offre les instruments pour rentrer dans la langue et dans la culture indienne, et ensuite à trouver donc ces parcelles de vérité, j'ose utiliser le mot, ici, dans ces grands textes. Et si on veut faire un parallèle, il arrive aussi à mettre en regard donc ces deux grands textes, et tout l'enjeu de son comparatisme est là. Pas écraser une culture sur l'autre, pas écraser une pensée sur l'autre, mais chercher ce qui est essentiel dans chacune. Et là, une sorte de révélation. Ce que l'Iliade avait montré, c'est-à-dire que l'homme est soumis à l'emprise de la force à tout instant, surtout dans l'action, et il ne pouvait pas y échapper. Et c'est le grand enseignement de l'Iliade. Alors là, dans la Bhagavad Gita, encore une fois, c'est la grande interrogation sur l'action, sur le thème de l'action, et cette idée que par l'action même, on peut échapper à cette emprise de la force. Donc vous voyez, elle essaye de répondre, si vous voulez, à la même question, en interrogeant la même question universelle, en interrogeant des sources différentes. Donc l'aventure indienne, si vous voulez, entre d'une manière organique dans son parcours en quelque sens.
Oui, c'est vraiment très très bien dit. Et je crois que vous avez raison de souligner que l'amour d'une tradition n'écrase pas l'autre tradition. Et qu'elle éprouve malgré tout la présence de parallélisme, mais sans que ce parallélisme soit simplement mené. Il est délicatement mené. Et n'est-ce pas, Sylvia, avec un respect total des concepts qui sont mis en jeu.
Tout à fait. Alors la connaissance et sa compétence dans le domaine justement du sanskrit et de la philosophie indienne est très surprenante parce qu'elle est si jeune. Elle a brûlé les étapes très rapidement. Et je me permets peut-être de vous donner un tout petit exemple, mais qui est très symptomatique de sa manière de travailler sur les textes. Donc, j'ai parlé de cette action surnaturelle, n'est-ce pas, qui nous permet de contrebalancer la force que l'on trouve dans la Gita et que l'on appelle d'un nom qui est celui de la bhakti, qu'on traduit normalement comme l'abandon à la divinité. Or, cet abandon comporte un renoncement, un détachement par rapport au monde. Et Simone Veil dit, c'est la charité pour Dieu. Je crois qu'aucun indianiste pourrait traduire ainsi, vous voyez. Et pourtant, je vous dis que cette traduction est tellement surprenante parce qu'elle a quelque chose de profondément littéral. Charité donc comporte cette grâce, n'est-ce pas, la charisse. D'un côté, et d'autre part, elle va au fond de la racine sanscrite d'où vient le terme bhakti, qui est la racine bhaj, qui signifie partager, diviser, mais qui est utilisée surtout au moyen, et là, elle signifie plutôt partager avec, avoir part à, éprouver. Donc, par cet exercice profond sur le langage, par cette littéralité étonnante, vous voyez, Simone Veil parvient à traverser le langage et à saisir une idée qui comporte un renversement de perspective. Ce renversement de perspective est un peu la clé de son regard.
Pour aller toujours vers cet essentiel, et Florence de Lucie, vous nous rappeliez cette très belle citation de Simone Veil, « Concevoir l'identité des diverses traditions » non pas en les rapprochant par ce qu'elles ont de commun, mais en saisissant l'essence que chacune d'elles a de spécifique. C'est une seule et même essence, dit-elle.
Oui, ça peut paraître surprenant. C'est difficile à concevoir, mais une fois qu'on a pénétré les cahiers de Simone Veil et qu'on a exercé sa pensée en la moulant sur la sienne, on finit par comprendre. Et c'est un peu ce que je vous disais au début, c'est une pensée totalement ascendante, qui ne quitte jamais néanmoins l'ici-bas, mais une pensée totalement ascendante. Et cette relation entre les diverses traditions, ce rejointoiement, si vous voulez, vous ne pouvez l'obtenir qu'au sommet. Je crois, Anissa, vous pourriez dire cela très très bien.
Oui, Anissa souligne le fait que Simone Veil est une remarquable lectrice. Alors, en quoi est-ce important être un penseur pour elle, être un lecteur, une lectrice, témoigner de ce...
Oui, c'est important pour elle parce que ça évite quelque chose à quoi nous sommes très attachés, c'est-à-dire au fait qu'il n'y a jamais chez Simone Veil de généralité vague et il n'y a pas non plus de dispersion. Ce qui est très intéressant dans le sort qu'elle fait subir au texte que nous publions dans ce volume, c'est que finalement c'est un petit stock, mais ce n'est pas un stock gigantesque de textes. Ce sont toujours les mêmes, c'est-à-dire les textes qui lui semblent fondamentaux. Les textes qui sont véritablement intéressants et formateurs, et d'ailleurs cela s'explique en réalité par son engagement dans le domaine de la pensée. Son idée par rapport aux textes grecs, ça a été de donner accès à la culture grecque à un certain nombre de gens qui n'y avaient pas accès. Et c'est parce qu'elle a réfléchi aussi souvent à la question de savoir quel texte on pourrait présenter, procurer à des gens qui ne font pas les études qu'elle a eu la chance de faire au lycée Henri IV et à l'école normale supérieure, qu'elle est allée à l'essentiel. Et du même coup, elle travaille sur des textes qui lui semblent formateurs pour la pensée, des textes qui nous apprennent à comprendre des choses essentielles, et elle les retraduit, elle les retravaille, de sorte que lire pour elle, c'est quelque chose de créatif. Lire, c'est penser. Lire, c'est mettre l'accent sur certains aspects du texte. Et souvent, elle retraduit sans arrêt les mêmes textes en essayant de trouver l'inflexion la plus juste par rapport aux questions qu'elle se pose. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que d'une certaine façon, Simone Veil montre l'importance de la traduction, montre quel rapport il y a entre penser et traduire, entre lire et traduire. Lire, vraiment, c'est toujours interpréter un texte. Et l'interpréter, ça veut dire ne pas dire quelque chose qui irait contre la lettre du texte, mais en même temps faire dire au texte ce qu'il ne dit pas de façon évidente et explicite. Et donc, c'est tout un travail d'explication, d'interprétation, d'herméneutique qui est très intéressant. Et dans ce volume, qui peut avoir un côté austère, ne serait-ce que par son côté monumental, c'est un gros volume. Ce qui est très intéressant souvent sur tel ou tel texte, c'est de voir les variantes, comment sa traduction a évolué, comment elle a essayé de rendre le texte en donnant l'accent juste.
Oui, je suis tout à fait en accord avec ce que vous dites là. Parce qu'un fidèle disciple d'Alain, pour elle, penser, c'était toujours repenser. On ne pense pas pour de bon, on ne pense pas une fois. Une vérité qu'on a dite un jour doit être redite le lendemain à neuf. Une pensée doit être repensée. Il y a là une sorte d'énergétique de la pensée, voyez-vous, un sens de l'effort. On doit faire effort devant un texte et on doit à chaque fois se placer devant ce texte comme s'il était neuf et à chaque fois on refait une lecture neuve, d'où ces variantes qui sont tout à fait passionnantes parce qu'on peut observer le mouvement d'une intelligence de plus en plus complète. Vous avez trouvé ça dans le domaine indien à plusieurs reprises.
Oui,
une notion à laquelle elle se heurte, qui est très difficile parce que l'Inde est quand même très très loin de nos habitudes conceptuelles. Elle s'approche une fois, deux fois, dix fois, vingt fois. Mm-hmm. Et elle aboutit quelquefois à des résultats qui sont très remarqués et très remarquables, n'est-ce pas ?
Tout à fait. Effectivement, même dans le domaine indien, Simone Veil essaye elle ne fait que relire. De revenir sur certains passages qui sont des passages clés avec des notions clés. Et chose très surprenante, parfois, elle revient, si vous voulez, à la lettre originale du texte. Donc on trouve parmi les lignes de ces traductions des morceaux de l'original. Et ce n'est pas seulement pour convoquer l'original à ce moment-là, mais c'est parce que finalement, elle a tellement bien lu qu'elle s'est rapprochée de l'original infiniment, vous voyez ? Ces termes, parfois il s'agit simplement d'un terme qui est réinséré dans la langue originale, dans sa traduction, et c'est pour revenir à l'intégralité de sa complexité, pour lui laisser redonner, si vous voulez, sa liberté sémantique entière. Et je trouve ça très, très généreux de sa part et d'autre part, l'aboutissement d'une recherche très, très profonde.
Oui, vous venez d'expliquer quelque chose que je n'avais pas complètement perçu jusqu'à présent. Parce que dans ces traductions des grands textes indiens, vous trouvez constamment Brahman, Atman, Dharma,
Karma.
Alors on se dit, mais enfin, elle exagère, pourquoi est-ce qu'elle ne traduit pas? Non, vous venez d'expliquer.
Oui.
Elle a compris, elle est entrée, elle a soulevé la gangue, elle est entrée si profond que... Quel est le meilleur équivalent du mot? Ben, c'est le mot.
C'est le mot.
Tout simplement.
Une curiosité sans limite.
Oh, quelque chose de vorace, vous savez. Quelque chose même qui est presque inquiétant. C'est-à-dire que si elle n'était pas cette admirable personne vouée pour des choses plus grandes qu'elle, vouée même à ce qu'on appelle, d'un mot difficile, le surnaturel, on pourrait dire qu'elle était pétrie d'orgueil, d'une certaine façon. Elle aurait pu passer pour une femme insupportable, ce qu'elle n'est pas. Mais c'est vrai que toute discipline neuve qu'elle ne connaissait pas excitait en elle un désir violent. Elle allait en bibliothèque, elle ouvrait les ouvrages, naturellement, les mémoires originaux, elle allait directement au texte. Ça aussi, c'était un enseignement d'Alain, et ça se faisait aussi dans la famille Veil, où on était très... un petit peu snob de ce côté-là. Oh, jamais de commentaires sur les textes. Les textes! Et eux seulement.
Alors, quelle ramification avec son christianisme? Cette culture indienne, cette culture grecque, quel est le pont vers le christianisme?
Ah, c'est une énorme question.
En faisant l'impasse sur sa judaïcité.
C'est une énorme question. Elle est difficile à raconter, c'est le secret de son être, de son âme. En général, on explique cela en trois coups de marteau, et c'est assez agaçant, parce que ce n'est pas une chose simple du tout, c'est une chose qui s'est passée à l'intérieur d'elle-même.
Il faut lire ses œuvres complètes, éditées chez Gallimard.
En tout cas, en ce qui concerne la remarquable proximité chez Simone Veil du message grec et du message chrétien, au détriment du message juif. C'est une énorme affaire. C'est vraiment qu'elle a choisi Athènes contre Jérusalem. Et à tel point que les grands textes de l'Antiquité grecque sont presque une sorte de premier testament, en lieu et place de la Bible, si vous voulez. La parole, la première évangélisation, ce serait la parole grecque d'une certaine façon. C'est peut-être aller trop loin, mais ça dit quand même quelque chose d'assez véridique. Qu'en pensez-vous, Anissa?
Oui, personnellement, j'ai une attitude de retrait, comment dire, par précaution, devant la façon dont Simone Veil a été un peu trop récupérée par la pensée catholique, pour le dire gentiment.
Oui, faut le
parce
dire.
Que ce qui me semble intéressant chez elle, c'est qu'elle soit toujours restée sur le seuil. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant que tout le reste. La question de savoir si elle est vraiment catholique, tellement catholique, si catholique. Le côté Sainte-Simone est quelque chose qui ne correspond pas du tout à la pratique des textes de Simone Veil que j'ai. Donc, quelqu'un qui reste sur le seuil, ça me semble quelque chose d'intéressant. Et il me semble qu'au fond, la question qui me semble la plus difficile, et sur laquelle je n'ai évidemment pas de réponse, mais ce qui est la plus intéressante, effectivement, c'est le rapport de Simone Veil au judaïsme, beaucoup plus qu'au catholicisme. Parce que, pour reprendre tout à l'heure, Sylvia disait que ce qui avait été très important au début dans la réflexion de Simone Veil sur les Grecs, c'est l'Iliade, ou le poème de la force. C'est, je crois, l'un des plus beaux textes de Simone Veil. C'est celui qui est peut-être l'un des textes les plus fondamentaux, plus que ses réflexions sur Platon qui partent toujours du texte, qui sont moins plus proches de portions de textes précises et qui sont moins une réflexion surplombante sur la totalité de ce texte qu'est l'Iliade. Or, si on prend par exemple le thème de la force, on peut se dire, oh là là, qu'est-ce que c'est qu'un volume? Il y a la Grèce, l'Inde, et puis peut-être même le bouddhisme, ça va partout, c'est dispersé. Il n'y a jamais de dispersion, parce qu'en réalité, il y a toujours le fil directeur d'une pensée en acte. Elle s'interroge sur certaines notions, sur certains problèmes qui lui semblent fondamentaux, par exemple sur la force. À partir de là, comme elle a un esprit extraordinairement ouvert et curieux, elle va essayer de comprendre comment la force est comprise problématisé dans l'Iliade. Comment, qu'est-ce qui se passe, ce qui se passe dans la pensée indienne. Et puis, quand elle va réfléchir sur la politique dans ce merveilleux petit texte, Réflexion sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale, elle va tout d'un coup passer à quelque chose de plus rousseauiste. Elle va réfléchir à ce que c'est que les rapports de force et la servitude à l'intérieur de la société. Et ce qui est le plus étrange pour moi, c'est pourquoi elle n'interroge jamais les textes juifs. Pourquoi il n'y a pas de Talmud? Pourquoi il n'y a jamais, jamais rien? Et finalement, cette question me semble plus intéressante pour comprendre les points aveugles et les zones d'ombre chez Simone Weil que la question du catholicisme, qui est très présent, très important. Mais finalement, comme le montre ce volume qui va paraître, elle s'intéresse énormément à d'autres cultures. Et donc, il faudrait peut-être rééquilibrer ou pondérer un peu la manière dont elle a été tirée du côté du catholicisme, parce que ses lecteurs du XXe siècle étaient catholiques et s'intéressaient justement à ce rapport de Simone Weil au catholicisme, mais je ne suis pas sûre que Simone Weil, lue en Inde, ne serait pas considérée comme un auteur particulièrement intéressant dans ses rapports avec l'indianisme.
Voici par exemple la réponse qu'elle a adressée au père Perrin que vous m'avez fait transmettre, chère Florence de Lucie. « Vous pouvez croire aussi sur ma parole que la Grèce, l'Égypte, l'Inde antique, que la Chine antique, la beauté du monde, les reflets purs et authentiques de cette beauté dans les arts et dans la science, le spectacle des replis du cœur humain dans des cœurs vides de croyances religieuses, toutes ces choses ont fait autant que les choses visiblement chrétiennes pour me livrer captive au Christ. Je crois même pouvoir dire davantage. L'amour de ces choses qui sont hors du christianisme visible me tient hors de l'Église. »
Oh, c'est merveilleux. Ce qui me touche le plus, c'est les replis du cœur humain dans des cœurs vides de croyances religieuses. Ça a été un grand combat avec le père Perrin. Elle aimait beaucoup cet homme, qui était ce qu'on appelle dans un langage catho un saint homme, qui l'était, je pense, tout à fait, mais qui refusait ce qu'on appelle aussi dans le jargon catho la foi implicite. Or, elle avait rencontré énormément de personnes dans ses combats syndicaux, politiques, de toutes sortes, avec toutes sortes de milieux, car elle a beaucoup fréquenté des milieux très divers. Elle aimait s'émerveiller justement de la beauté de certains êtres, qui lui présentaient finalement un aspect de la nature humaine qui était tout à fait enthousiasmant. Vous voyez, quand elle écrit par exemple au paysan espagnol Antonio Atares, elle sait lui parler, elle s'émerveille justement des traits de cette personne, malgré tout assez fruste, mais elle s'émerveille de retrouver une sagesse comme stoïcienne, comme cette façon de pouvoir faire face à un destin hostile. Je trouve ça très, très admirable. Donc, vous imaginez combien elle est peu sectaire. Elle est même anti-sectaire. Elle ne se trouve bien que dans le monde entier. Hein? Le surnaturel, oui, elle en a beaucoup parlé. Mais surtout sans quitter l'ici-bas. Aucune des valeurs profanes doit être mise de côté. Surtout pas. Et l'ensemble de l'histoire du monde, il n'y a pas un avant Jésus-Christ, un après Jésus-Christ. C'est l'histoire humaine dans son ensemble.
Avec tout de même cette part d'absence au monde juif.
Alors, énormément ont disputé sur cette affaire. Quelquefois se sont disputés. Il y a eu des empoignades phénoménales. Mais
une vie courte. Peut-être
oui,
qu'il
n'y
a pas laissé le temps de revenir.
Retenez une chose, et il va en être parlé lors de l'hommage de la Bibliothèque nationale le 23 octobre prochain. Guy Petit-Dumange va nous parler de Simone Weil et Lévinas. Or, oui. Lévinas, dans le grand texte qu'il a écrit sur Simone Weil, dit « Mais nous avons à faire attention à Simone Weil. C'est quelqu'un de considérable. Donc, je ne prends pas à la légère ce qu'elle dit. Étudions, essayons de comprendre. » Ceci dit, on ne comprend pas très bien. Moi, ce que je vois, c'est qu'elle possède au fond d'elle-même des caractères judaïques évidents. Et elle a une manière, j'allais dire, comportementale, hein, et une manière même littéraire. Elle savait, quand elle n'était pas bloquée contre l'Ancien Testament, par exemple, elle savait goûter les grands textes, les grandes pages, que ce soit d'Ézéchiel ou d'Isaïe.
Et de rechercher Dieu à travers ces pages, à quelque culture que ces pages
oui, appartiennent. Oui, c'est tout à fait cela, tout à fait cela. Qu'est-ce que vous pourriez dire, Anissa? Vous avez parfaitement perçu cela, cette capacité de goûter toute saveur.
Oui, non, pour cette question du catholicisme, il me semble que si Simone Weil est restée sur le seuil, c'est pour quelque chose qu'elle ne cesse de répéter partout. Je crois qu'elle n'aurait pas voulu être dans la rubrique catholique. Elle ne voulait pas être phagocytée par ce qu'il y a d'institutionnel dans l'Église. Et Et en fait, là est le problème. Mais elle n'aurait pas du tout voulu non plus, je pense, se trouver encartée, pas plus au Parti communiste. Elle restait quand même un électron libre, libre de sa pensée. Et l'un des textes, il est très connu, hein, mais qui est l'un des plus beaux textes de Simone Veil, qui explique pourquoi on arrive à la caser dans aucune rubrique, pourquoi donc il est difficile de parler d'elle, c'est celui qui se trouve dans un passage des réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale, où elle explique que l'homme est soumis à la servitude, aux contraintes sociales, à la force, parce que tout est hiérarchique, il y a toujours des hommes au-dessus, des hommes au-dessous, des ordres, des contraintes dont on ne peut se libérer. Et elle dit, il y a un seul domaine dans lequel l'individu dépasse la collectivité, je la cite ici, autant que quelque chose dépasse rien, car la pensée ne se forme que dans un esprit se trouvant seul en face de lui-même, les collectivités ne pensent point. Pour exprimer la même idée sous un autre aspect, l'homme n'a rien d'essentiellement individuel, n'a rien qui lui soit absolument propre, si ce n'est la faculté de penser. Et cette société dont il dépend étroitement à chaque instant de son existence dépend en retour quelque peu de lui, dès le moment où elle a besoin qu'il pense. Car tout le reste peut être imposé du dehors par la force, y compris les mouvements du corps, mais rien au monde ne peut contraindre un homme à exercer sa puissance de pensée, ni lui soustraire le contrôle de sa propre pensée. Si l'on a besoin qu'un esclave pense, il vaut mieux lâcher le fouet. Sinon, l'on a bien peu de chances d'obtenir des résultats de bonne qualité. Et ça, c'est tout Simone Veil. C'est ce qui permet de reprendre ce que vous disiez tout à l'heure. Elle repense toujours à nouveaux frais. Elle, c'est pas quelqu'un qui stocke des informations et qui les réchauffe. Et du même coup, elle aurait été embarrassée d'être prise dans une rubrique.
Oui, je pense que ça aussi, c'est un aspect de sa nature de juive. Elle est une exilée par excellence, c'est-à-dire qu'elle ne se trouve bien nulle part. Elle ne peut pas s'enraciner où que ce soit. Elle éprouve même, dans sa douleur, sa souffrance, une sorte de satisfaction. Elle ne peut entrer, voyez-vous, dans une communauté quelconque. Elle s'en échappera toujours. Il y a là un sentiment qui est assez poignant et, à mon avis, qui rejoint assez profondément un trait de sa nature.
Sylvia Dintino, par rapport à cet entrelacement serré du corporel et du spirituel, et du profane et du sacré, que l'on retrouve dans la culture indienne, que pourriez-vous nous dire par rapport à...
Écoutez, déjà j'ai fait un peu signe à cette direction quand je vous disais que cette interrogation sur l'action est au centre de la réflexion de Simone Veil. Et je me permets de revenir un instant sur ce qu'on a dit tout à l'heure sur la judaïté éventuelle de Simone Veil, et pas éventuelle, réelle, et parce que je crois qu'il y a aussi chez elle justement ce désir d'étrangeté, de rester outsider toujours, et qu'il y a comme une certaine pudeur vis-à-vis de cette racine juive chez elle, mais qui est racine qui apparaît et qui donne des fruits. Je pense par exemple à l'idée des décréations chez elle. Je ne sais pas ce qu'on va entendre lors de la rencontre de la semaine prochaine,
oui. Octobre, à la BNF.
Exactement, mais que le dialogue éventuel avec Emmanuel Levinas, justement, se pose sur des notions comme celle-ci et qui ont une racine juive. Donc, pas d'appartenance, mais une tension vers un mystère qui dépasse tout. Toutefois, et Simone Veil disait que toute religion est l'unique vraie. Donc ça serait lui faire un tort de restreindre son domaine à une religion unique, n'est-ce pas ? Ce auquel elle tient vraiment, c'est qu'il y a des traces de cette vérité au cœur de toute tradition, de toute grande tradition, et surtout ce qui est plus déchirant, au cœur des traditions disparues, au cœur des mondes passés, vous voyez, de l'Inde ancienne, au cœur de la Grèce ancienne, au cœur de l'Occitanie disparue, que l'histoire, donc, dont l'histoire a tari la source, c'est ce mystère-là qu'elle est en train de sauver, qu'elle est en train de ressusciter, en quelque sorte, dans son travail. Et c'est ce mystère, si vous me permettez, je n'élude pas à votre question, mais qui fait le point de contact entre corps et âme chez elle.
Après ces propos, après ces paroles, une phrase de Florence de Lucie, « Simone, cerveau universel qui songe à une sagesse de tous les temps et de tous les pays. »
C'est peut-être plus à une sagesse qu'à un regroupement de tendances religieuses. Sagesse entendue au sens le plus noble, le plus vaste et le plus profond. Parce qu'après tout, vous avez en Extrême-Orient un certain nombre de pensées qui ne sont pas des religions. Le Tao Te Ching n'est pas, ce n'est pas un texte fondateur d'une religion. Le bouddhisme non plus, stricto sensu. Donc c'est pourquoi le terme de sagesse me semblait plus englobant, nous semblait plus englobant. Et ce sont des débats sans fin, vous savez, en réalité on dispute dans cette France actuelle, cette France intellectuelle, qui d'une certaine manière refuse Simone Veil. L'université refuse Simone Veil. Pourquoi ? Parce qu'elle est trop catholique. Absurde. Voyez, donc, si vous voulez, notre effort à nous trois et toute l'équipe que nous formons et depuis tant d'années, c'est d'essayer de montrer que Simone est une pensée féconde et qui est savoureuse pour quiconque et sans qu'on l'accroche à un parti, à une religion, à une doctrine. Il n'y a pas de doctrine. Elle est essentiellement ouverture.
Et vous pensez que cette année 2009, qui marque donc l'anniversaire de sa naissance, aura contribué à cette sorte réhabilitation, sinon réhabilitation, meilleure compréhension
Moi, je dirais plus fortement réintroduction dans le grand domaine à la fois de la littérature, de la pensée. Je ne comprends pas qu'on l'écarte. C'est vraiment trop simple et c'est vraiment même lâche. Parce que, voyez-vous, c'est une pensée que je considère comme essentiellement savoureuse. Au-delà de cette extrême intelligence et de cette profondeur dont je vous parlais, c'est une pensée qui vous attache. Je crois qu'à partir du moment où on a eu sur le bout de la langue le grain de grenade dont elle parle, vous savez, on est pris en quelque sorte au piège de cet esprit, on ne peut plus s'en détacher.
Oui, mais
elle est vraiment savoureuse.
Oui, mais nous sommes quatre femmes autour d'un micro pour parler d'une autre femme. Simone Veil, il n'y a pas un peu de sexisme par rapport à nos universitaires, il n'y a pas une résistance.
Quelle idée absurde.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Quelle idée absurde. Surtout Simone. Surtout Simone Veil, qui était quand même d'une féminité très relative. J'espère, les auditeurs ne le verront pas, que nous le sommes un tout petit peu plus qu'elle, toutes les quatre. Non, il n'y a aucun sexisme. Non, sans rire, non, il n'y en a pas du tout. Simplement, moi, ce que j'espère de cette année, parce que les anniversaires, ça n'est pas vraiment ma tasse de thé, mais si seulement ça pouvait donner envie à des tas de gens de lire les textes de Simone Veil. Parce que Simone Veil, dans la mesure même où elle n'a pas de doctrine, etc., mais elle est accessible à tous. Ça n'est pas une langue technique, c'est une très belle langue. D'ailleurs, elle écrit bien, très bien. Mais on peut commencer par toutes sortes de choses selon les centres d'intérêt que l'on a. Et moi, ce qui me désole, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de voir Simone Veil ressurgir parce qu'il faut trouver des héros et des boucs émissaires aussi. La société contemporaine vit beaucoup de cela. Il faut absolument tuer certaines personnes et en ériger d'autres en saints. C'est bien la vie de Simone Veil. Elle est intéressante, sa vie. Elle a même quelque chose de passionnant. Mais c'est tellement moins intéressant que ses livres. Si seulement, je n'imagine même pas comment on peut, par exemple, voilà, ce petit texte, Réflexion sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale, je m'étonne toujours qu'il y ait des gens qui se présentent au baccalauréat général et qui n'aient jamais ouvert ce livre. Bon, d'accord, faut passer les 40 premières pages. Parce que le tableau du marxisme, pour quelqu'un qui a 18 ans aujourd'hui, ça n'est pas très intéressant. Mais après, mais ça se lit, c'est quelque chose qu'on peut lire sur la plage, en prenant son bain. Pourquoi ne lit-on pas Simone Veil, qui est si facilement accessible ? Beaucoup de gens lisent Alain. Moi, je préfère lire Simone Veil, je vous le dis.
Mais vous êtes bien placé en tant que professeur de Cagnes. Et d'ailleurs, vous avez déjà converti, si je puis dire, pas mal de vos étudiants à la lecture de Simone Veil.
Oui, je crois qu'il faut
convertir
les étudiants à la lecture. Donc, s'il y a quelque chose de bien dans cette année, c'est de donner aux gens de lire Simone Veil, plutôt que de passer toujours par l'image d'Épinal.
Alors, pour briser cette image d'Épinal, nous serons tous à la BNF. Florence de Lucie, vous nous rappelez l'horaire, le jour ?
C'est donc vendredi prochain, 23 octobre, une seule après-midi, de 14h à 20h. Entrée libre, naturellement. Un amphithéâtre qui sera naturellement comble et passionné.
Anissa Castel-Bouchouchi, merci d'avoir participé à ce temps de réflexion. Nos remerciements également à Sylvia Dintino. Bon travail. Florence de Lucie, vous en êtes à la moitié des œuvres complètes.
Ah non.
Qu'est-ce qu'on peut dire ?
Non, plus, les deux tiers.
Les deux tiers.
Les deux tiers. À mon avis, le plus difficile est derrière nous. C'est-à-dire justement ce travail assez effrayant où nous courions derrière elle de domaine en domaine et où il fallait à chaque fois essayer de pénétrer les sources, mettre des références, savoir de quoi il parlait. Donc je pense que nous avons dominé tout cela. Alors il nous reste maintenant l'Enracinement, ce texte merveilleux, mais qui ne pose pas de problème pour nous maintenant considérable. Les écrits de Londres, de New York et de Londres, c'est pas si difficile que cela. Et puis la correspondance. Non, je pense que nous avons franchi l'essentiel.
Et chaque fois, ce sont de nouvelles aventures vécues avec une équipe revisitée.
Oui, ou... les équipes bougent. D'abord parce que justement, les domaines visités par Simone sont multiples. Voilà. Donc ça a beaucoup évolué. Et puis comme c'est vieux de 30 ans, eh bien, il y a des personnes qui ont disparu.
Mais vous êtes toujours là, fidèle au poste, oui. Pour nous parler de Simone Veil. Mesdames, merci de votre participation devant les micros de Canal Académie.